Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le journal radiophonique amplifié, le premier de cette année 2018, ça fait plus d'un mois qu'on s'était pas vu, mon dieu, catastrophe. C'est aussi le 30e journal radiophonique amplifié déjà, et on se retrouve donc pour une petite heure d'actu politique et culturelle sur Transistor. Les actus qui vont démarrer bien sûr avec le journal de Maë et François René, qui sera poursuivi par un petit décortiquage, un retour sur la presse du moment, et Dieu sait si on en parle de la presse en ce moment, avec Marie. Puis nous sauterons l'édito économique car notre président préféré Robin nous fait défaut ce soir. Nous prendrons rapidement les pieds dans le tapis avant de passer à la culture, et puis on terminera avec le sport et les sciences. Voilà pour le programme de la soirée, mais tout de suite, on commence donc avec le journal. Bonsoir Maë, bonsoir François René.
Bonsoir.
Bonsoir Rémi.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce premier journal de 2018. Nous sommes toujours là, envers et contre
ça, c'est
tout,
moi qui le dis.
Pour vous informer, je m'en fiche, je le dis quand même. Ainsi, depuis votre cuite du nouvel an, vous apprendrez que les pèlerinages à Lourdes sont en baisse, que des youtubeurs filment des pendus, que Donald Trump espérait ne pas être président, qu'en 2017, le CSA aura enregistré un nombre record de plaintes de téléspectateurs, et qu'à Alep, des gamins comme des adultes continuent à mourir sous des frappes aériennes pendant que tout le monde s'en fout. Mais trêve de mondanité, entrons dans le vif des sujets de cette semaine. Gérard Collomb entend bien mener jusqu'au bout son projet de loi Asile-Immigration. Il a présenté aujourd'hui la trame du texte qui fait débat dans le monde associatif de l'aide aux migrants. En effet, le ministre de l'Intérieur, malgré les belles paroles de son gouvernement, entend bien durcir les procédures d'accueil et de gestion des demandeurs d'asile. Cette loi, c'est d'abord une réduction des délais pour le demandeur d'asile qui devra désormais déposer son dossier sous 90 jours au lieu de 120 jours, quand la prise de rendez-vous en préfecture prend environ 30 jours. C'est ensuite une augmentation de la durée maximale des séjours en rétention administrative qui passe de 45 à 90 jours, et aussi l'augmentation de la durée de retenue administrative pour la vérification du droit au séjour pour lutter cette fois contre les sans-papiers. Les associations qui avaient déjà exprimé leur mécontentement au mois d'octobre protestent à l'unanimité contre cette proposition de texte de loi qui ne semble pas avoir pris en compte leurs revendications.
Quelques améliorations tout de même.
Oui, avec la possibilité d'accès à des titres pluriannuels d'une partie des réfugiés et une extension de la réunification familiale pour les frères et sœurs des réfugiés mineurs.
Le texte définitif sera présenté en février au Conseil des ministres.
Le Parti socialiste se cherche et cherche des candidats. Hier, c'était au tour du député européen Emmanuel Maurel, représentant de l'aile gauche du PS, d'officialiser sa candidature au poste de premier secrétaire du parti.
C'est un scrutin exclusivement masculin qui s'annonce après que Najat Vallaud-Belkacem ait annoncé ne pas se présenter.
Tout à fait, un scrutin avec pour l'instant 4 candidats, le député Luc Carvounas, qui s'est lancé dès fin novembre 2017, l'ancien ministre Stéphane Le Foll, Olivier Faure et Emmanuel Maurel donc. Les candidats potentiels ont jusqu'au 27 janvier pour se présenter, le premier tour du scrutin aura lieu le 15 mars et les deux candidats arrivés en tête seront départagés le 29 mars.
Et comme le soutient Martine Aubry, le PS a grandement besoin d'une personnalité convaincante à sa tête.
Oui, une personnalité convaincante pour amener d'abord ses adhérents, dont il a perdu une grande partie ces dernières années, ne comptant plus en son sein que 90 000 membres. Et pour dessiner la ligne du parti qui doit, s'il veut se maintenir, trouver place dans la recomposition politique mise en œuvre depuis 2017 entre La République En Marche et La France Insoumise. Y aurait-il de la censure dans l'air sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes? Le doute plane depuis hier, après qu'une série de 5 reportages sur le bilan de Laurent Wauquiez à la tête de la région ait été déprogrammée après la diffusion des 2 premiers épisodes.
Si la direction explique sa décision en arguant d'un contenu déséquilibré des reportages, des membres de la chaîne affirment, eux, qu'il s'agit d'une décision prise à la suite d'une intervention de Laurent Wauquiez.
Laurent Wauquiez d'ailleurs a exigé un droit de réponse qu'il a obtenu et qui devrait être diffusé dans les mêmes conditions et la même durée que les reportages. Alors censure ou autocensure, des membres de la chaîne déplorent en tout cas la perte de crédibilité que cette affaire risque d'entraîner pour le média. Réchauffement des relations diplomatiques entre les deux Corées.
Oui, le Conseil de sécurité de l'ONU salue les pourparlers intercoréens intervenus mardi en espérant qu'ils ouvriront la voie à une, je cite, dénucléarisation de la péninsule coréenne, a déclaré mercredi 10 janvier son président en exercice, l'ambassadeur du Kazakhstan, Kairat Umarov. Des représentants sud et nord-américains se sont rencontrés mardi pour la première fois depuis décembre 2015, lors d'une réunion au cours de laquelle la Corée du Nord, qui avait boycotté en 88 les Jeux de Séoul, a accepté d'envoyer au Sud une délégation pour les Jeux Olympiques d'hiver, qui se tiendront à Pyeongchang du 9 au 5 février, à 80 km de la frontière. Sous le couvert de l'anonymat, un diplomate occidental a toutefois relativisé les possibilités de voir un jour la péninsule coréenne dénucléarisée. Cela ne pourra intervenir qu'après, je cite, un changement de régime à Pyeongchang.
Oprah Winfrey aux Golden Globes.
Oui, la célèbre animatrice du talk show le plus regardé des États-Unis a fait un discours très remarqué lors de la 75e cérémonie des Golden Globes qui récompense les œuvres du cinéma et de la télé américaine. L'affaire Weinstein planait sur cette soirée, comme en témoigne le dress code noir et les nombreuses références à la libération de la parole qui ont émaillé les discours des lauréates. Oprah Winfrey, qui s'est vue décerner le très symbolique Cecil B. DeMille Award pour l'ensemble de sa carrière de productrice et d'animatrice, a rendu hommage à toutes les femmes qui, comme sa mère, ont supporté les abus simplement parce qu'elles avaient des enfants à nourrir, des factures à payer, des rêves à accomplir, selon ses propres mots. Et elle a salué la mémoire de Ruthie Taylor, une femme noire qui fut enlevée et violée par 6 hommes blancs armés en 54, dont le combat pour la vérité fut défendu dans la presse par Rosa Parks, mais dont les agresseurs n'ont jamais été condamnés. Elle a conclu son discours par ces mots « Je veux que toutes les filles qui regardent sachent qu'un nouveau jour se lève, un jour qui va nous conduire vers une nouvelle ère où plus personne n'aura à dire Me Too. »
Il a suffi de ces quelques mots pour qu'Oprah Winfrey devienne en quelques heures une candidate potentielle à l'élection présidentielle de 2020.
Et oui, l'engouement qui s'est brutalement cristallisé sur son nom tient d'abord à l'absence, pour l'instant, d'une figure pouvant incarner une alternative démocrate au président sortant lors de la prochaine élection. Si l'on excepte peut-être Mark Zuckerberg, dont le nom revient fréquemment. Le précédent historique qu'a constitué l'élection d'un magnat de l'immobilier dépourvu de la moindre expérience gouvernementale a peut-être donné des idées à certains.
Manifestation en Iran.
Le président Hassan Rouhani semble déterminé à tirer parti du mouvement de protestation qui a touché plus de 80 villes à travers l'Iran durant une semaine jusqu'au 5 janvier. Mouvement qui, rappelons-le, a été violemment réprimé, avec 21 morts et près de 3700 arrestations. Les Iraniens, qui ne manifestent plus, mais le président entend utiliser à son profit leur colère. D'une part, il veut apparaître comme celui qui a réussi à maîtriser la contestation. En effet, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'en est chargé, et non les gardiens de la Révolution, la principale force armée du pays, qui échappe au contrôle de Rouhani et dépend directement du guide suprême. D'autre part, Rouhani veut donner l'impression à la classe moyenne urbaine, sa base électorale, qu'il est un rempart contre un retour sécuritaire mené par les gardiens de la Révolution. On le voit, la contestation aiguise donc la rivalité structurelle entre le pouvoir spirituel représenté par le guide spirituel, Ali Khamenei, et le pouvoir temporel incarné par Rouhani. Celui-ci a semblé légitimer dans son discours de lundi les critiques exprimées par des manifestants à l'encontre du guide suprême. Il a ainsi affirmé qu'aucun de nos responsables n'est infaillible et toute autorité peut être critiquée. Largement réélu à la présidence en 2017 avec 57% des voix au premier tour, Rouhani est en position de force pour mener une réforme de l'État qui lui permettrait de renforcer ses pouvoirs aux dépens des autres forces politiques du pays.
Et donc c'est fini pour votre journal.
C'est sujet long.
On va passer bien sûr au sujet. Non, oui.
Autant pour moi, j'étais
ah oui, voilà.
Induit en erreur.
Voilà, premier bug de cet amplifié en 2018. En tout cas, je remarque avec un certain soulagement que ce soit la présidence du PS ou à celle des États-Unis, il reste de la place pour les candidats malheureux à celle du CNRS. Je vous laisse pour ce sujet long, c'est parti.
Et le mouvement Nuit Debout se poursuit.
C'est fasciste et réactionnaire.
C'est même étendu ces derniers jours.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Nous voilà donc de retour et c'est bien l'heure du sujet long, c'est parfait, on a rattrapé la légère avance qu'on avait. Vous écoutez Transistor, c'est le journal radiophonique amplifié, le sujet long, à toi Maë.
2017 aura été marqué, entre autres, par l'affaire Weinstein. Les dénonciations à l'encontre du réalisateur américain ont déclenché en fin d'année une vague de témoignages tout autour de la planète de la part des femmes victimes de harcèlement et de violences sexuelles. Ces révélations, qui n'en sont pas vraiment, ont porté devant les médias les revendications féministes et de nombreux débats autour de la question de la misogynie. C'était en 2017, donc, où les hashtags Balance ton porc et MeToo faisaient preuve d'un refus de continuer à taire les violences misogynes dont les femmes sont victimes au quotidien. La parole se libérait et on était bien décidé à faire bouger les choses. 2017 dénoncé donc. Mais c'est sur des revendications antiféministes que s'ouvre 2018 avec cette tribune signée par un collectif de 100 femmes, dont Catherine Deneuve, défendant, je cite, « une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle ». Cette tribune, qui a soulevé depuis sa parution dans Le Monde il y a quelques jours de houleux débat, s'ouvre sur ces mots.
Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit. On m'a entendu au début ? Je reprends. Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste.
Elle dénonce entre autres une incitation à la haine des hommes, à la délation envers les comportements jugés machistes et surtout un mouvement féministe qui engagerait un regain de puritanisme malvenu. Alors ça tombe bien, si j'ose dire, parce que je viens de lire l'ouvrage de l'historien Maurice Domas, intitulé « Qu'est-ce que la misogynie ?» Et cette tribune vient illustrer parfaitement nombre de réflexions qu'il met en place dans son essai. Cette tribune, en effet, semble révélatrice d'abord d'une méconnaissance de ce qu'est la misogynie. Parce que la misogynie, si on peut dire, est double. Il y a la misogynie visible et la misogynie ambiante. La misogynie visible, agressive, ce sont les violences, les insultes, les agressions. C'est cette misogynie dénoncée par l'affaire Weinstein. Elle est la plus évidente, c'est celle qu'on peut difficilement nier. La tribune parue dans Le Monde s'ouvre en la reconnaissant. Le viol est un crime. Mais il y a aussi une autre forme de misogynie, plus insidieuse, la misogynie ambiante. Misogynie au caractère structuré et universel, tellement intégrée par les sociétés qu'elle passe souvent pour naturelle. Vous savez, cette misogynie qui fait que les femmes sont payées en moyenne 14% de moins que les hommes en France, qu'elles sont exclues de nombre d'espaces urbains, qu'il n'y a que 30% de dialogue entre femmes et hommes, entre femmes au cinéma, et moins encore où le sujet abordé n'est pas les hommes. Cette misogynie ambiante, contrairement à ce qu'affirme cette tribune, parue dans Le Monde, on la retrouve dans la galanterie, qui confirme les femmes dans leur identité de genre et active tous les stéréotypes liés. Alors certes, ce n'est peut-être pas une agression, mais c'est sans doute quelque chose qu'il faut pointer du doigt si on veut venir à bout de la misogynie.
Et ce qui est intéressant dans cette tribune également, c'est qu'elle met en place des arguments classiques de l'antiféminisme.
Tout à fait. D'abord, elle joue du fait qu'elle est portée par des femmes, ce qui semble être un argument en or pour dénoncer les dérives de ces féministes extrêmes qui s'emballent un peu et ne font pas preuve de l'ouverture d'esprit de ces signataires-là. Sauf qu'il faut prendre en compte que les femmes aussi grandissent dans une société qui leur fait intégrer et assimiler les stéréotypes liés à leur sexe. Et donc que les femmes peuvent et font aussi preuve de misogynie. La tribune également craint un regain de puritanisme. En s'attaquant à la question de la séduction, le mouvement Weinstein risquerait de créer une société de mijaurées et d'hommes réprimés dans leur désir de drague. Sauf qu'ici, on joue sur la peur en prétendant que la séduction va finir par être considérée comme du harcèlement. Et on prend un peu les hommes pour des idiots en prétendant les défendre. En effet, il est probable qu'un nombre considérable d'hommes savent très bien user de leur charme sans agresser. Cette tribune, finalement, semble surtout inquiétée de... Elle semble surtout s'inquiéter.
La preuve.
Cette tribune, donc, semble surtout s'inquiéter de ce qui, de par l'ampleur que prend la question dans les médias, peut apparaître comme une vague révolutionnaire. De tout temps, on a craint de voir bouger l'ordre établi, les nouveautés font peur, tout comme l'incertitude du gain et la crainte des effets pervers liés au changement. Sauf que dans les faits, Catherine Deneuve peut dormir sur ses deux oreilles. Le féminisme n'a jamais réellement su bouleverser l'ordre établi. Il a su faire bouger les lignes, porter difficilement des avancées pour l'égalité homme-femme, ce dont l'actrice signataire du collectif des 343 salopes devrait être au courant, mais jamais il n'a menacé de soumettre le monde à la domination des femmes. La prétendue haine des hommes que dénonce la tribune est bien souvent un argument construit par l'antiféminisme pour mieux asseoir la misogynie.
Jusqu'à 21h, le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Merci beaucoup Maë pour ce sujet long qu'on a fini par réussir à faire après cette interruption.
Et s'il y a des gens que ça intéresse, lundi à 13h30, lundi à 13h30,
oui.
Maurice Domas vient à l'ENS de Lyon pour parler justement de son ouvrage. Ce sera en D2 18 à 13h30, donc on vous attend nombreux.
Voilà, et puis on vous dira pas qu'il l'a invité, hein, c'est...
Absolument pas.
Ce serait tout à fait super.
On ne sait pas du tout.
20h16 sur Transistor, on te retrouve tout de suite François-René, c'est l'heure du décortiquage.
Décortiquage.
Voilà,
décortique. Si c'est pas assez bien cassé, ben je finis avec mon couteau.
Comment décortiquer?
Comment décortiquer?
Et nous allons présenter des méthodes simples justement pour le décortiquer.
Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un joli adjectif, disruptif.
Oh oui.
Oh oui, ah, je sens que ça te fait plaisir. Et pour ça, je vais piller un excellent article de Jacques Pézet, Paris, rue dans Libé, en octobre dernier, qui nous informe sur ce mot à la mode. On entend parler de président disruptif, pour parler de notre cher président Macron, de start-up qui a pour ambition de disrupter le secteur de la douche, ou d'autres qui veulent disrupter le chômage. En mai 2017, France Télévisions expliquait au Monde que les invités mystères de l'émission politique, comme Christine Angot, étaient parfois disruptifs. Alors d'abord, ce n'est pas un anglicisme de la dernière pluie, contrairement à ce que je croyais. Selon une définition présente dans le dictionnaire de la langue française de 1874 d'Émile Littré, le mot « disruption » signifie « rupture » ou « fracture ». Mais on ne comprend pas trop ce que signifierait « fracasser le secteur de la douche ». Si le mot a tant de succès aujourd'hui, c'est surtout dû à son emploi dans le milieu de l'économie, avec l'apparition de jeunes entreprises, les fameuses start-up. Il a d'abord reçu la bénédiction de l'influent professeur de la Business School d'Harvard et également consultant Clayton Christensen, qui va populariser l'expression à la fin des années 90 en parlant d'innovation disruptive, ce qui est une tautologie s'il en est. Force est de constater que le marketing et les médias ont employé ce mot à tire-larigot et qu'ils peuvent être désormais utilisés dans n'importe quel contexte au lieu de changer ou transformer, voire même schtroumpfer. Ne vous étonnez pas si votre conjoint se vante d'avoir disrupté la pelouse en la faisant passer d'abondante à tondue ou d'avoir disrupté le fait de se laver en utilisant le shampoing au lieu du gel douche.
Merci beaucoup, François-René. Je vous rappelle que dans les vœux de l'ENS, cette année, on nous annonce une année marquée par la rupture, hein, comme quoi elle est vraiment partout. Eh bien, c'est parti, grande rupture.
Majeure rupture
majeure dans cette émission, l'apparition de Marie Lécuyer au micro. C'est parti pour la presse.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper-revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors on commence avec une polémique. Tiens, je me demande bien de quoi tu vas nous parler.
Oui Rémi, parce que comme May un petit peu plus tôt, j'ai moi aussi envie d'en découdre. Alors chers auditeurs et auditrices, vous avez sans doute vu passer cette semaine une tribune dans Le Monde, écrite par Sarah Chiche, Catherine Millet, Catherine Robe-Grillet, Peggy Sastre et Amnous Salmani, toutes connues pour être de grandes théoriciennes du féminisme, surtout Peggy Sastre. Autrice de « La domination masculine n'existe pas ». Le texte a été co-signé par une centaine de personnalités de genre féminin avant de paraître dans la rubrique « Tribune » du site internet du Monde et il a été repris dans la version papier du quotidien pas plus tard qu'hier. Cette tribune s'intitule donc « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle ».
Alors qu'en disent-elles les autrices de cette tribune ?
Eh bien elles disent porter une autre parole que celle des femmes qui ont témoigné de leurs agressions cet automne avec les hashtags MeToo et Balance ton porc. En substance, elles affirment que le puritanisme a gagné la France, que les dénonciations de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viols sont les manifestations d'une haine des hommes et d'un totalitarisme, que les femmes ne sont pas bêtes et qu'elles peuvent toujours éconduire un dragueur lourd, un frotteur, sans en être traumatisées à vie. Curieusement, cette tribune ne parle jamais de la honte, de la peur, de la colère ou de la saleté que l'on ressent après une attaque sexiste. Curieusement, cette tribune ne dit jamais que la violence masculine est peut-être une manifestation de haine pour les femmes. Alors évidemment, je ne suis pas la seule à réagir, le débat s'est ouvert. À l'étranger, on a le droit à un certain nombre de poncifs, comme quoi la seule critique du mouvement MeToo pouvait venir de la France, le pays de la galanterie, du libertinage, des mœurs sexuelles débridées. Seule la France pouvait s'attaquer à MeToo, comme le résume le Courrier international, si vous souhaitez avoir un aperçu rapide des réactions favorables à cette tribune dans des journaux étrangers. Mais c'est un fait, c'est bien en France que 100 femmes de milieux privilégiés, blanches, âgées, ont choisi de prendre position contre les victimes plutôt que de les écouter.
Et un quotidien national a réagi ce matin.
Tout à fait Rémi, on pouvait retrouver dans les kiosques la une engagée de Libération, je cite « La liberté sexuelle menacée, vraiment ?» avec les visages de Catherine Millet et de deux signataires, Catherine Deneuve et Brigitte Lahaie. Alors je précise d'ailleurs que ce qu'on appelle partout la tribune de Deneuve n'a pas été rédigée mais seulement signée par elle.
Elle aurait bien été incapable de rédiger quelque chose qui dépasse les 20 mots.
Voyons Rémi. Alors, Libé prend position avec un dossier de 3 pages. La journaliste Cécile Domas propose dans, je cite, « sans signataire aux signaux contradictoires », un travail de recontextualisation un peu précis en cherchant qui sont les fameuses signatures de cette tribune. Et elle montre que la liste mélange aussi bien des femmes issues des milieux de la culture ou du monde du spectacle, où elles occupent une position plutôt stable et dominante, mais aussi des conservatrices et des antiféministes, Elisabeth Lévy par exemple. En somme, beaucoup de confusion. Enfin, on trouvera aussi dans le numéro de ce matin un article collectif de réponse en 4 points à la tribune pour la liberté d'importuner. C'est sous le titre « Réponse choisie pour des morceaux de choix ». Alors à mon sens, le point le plus intéressant, c'est celui où le groupe de journalistes montre que, contrairement à ce qu'affirment les autrices de la tribune, aucun homme n'a vu sa carrière brisée irrémédiablement en France par des dénonciations en ligne. Autant aux États-Unis, une 100aine d'animateurs, hommes politiques et artistes ont complètement disparu de la sphère publique. Ça n'est absolument pas le cas en France où, de toute façon, à peine 10aine de noms de personnalités auraient circulé. On ne va donc pas trop forcer le trait sur la vindicte publique et la délation massive.
Et passons maintenant à la presse hebdomadaire et puis à celui qui en fait la une.
J'ai nommé notre bien-aimé président Macron.
Ah.
En une du Point aujourd'hui, un photomontage de toute beauté fait par un stagiaire manifestement sous-payé. Vous y verrez un génie Macron qui sort de sa lampe dans un nuage vaporeux. Tout ça pour illustrer la grande question en couverture. Je cite « La France va-t-elle vraiment mieux ?» Alors, le sommaire annonce pêle-mêle un sujet de société. Vive le narcissisme ! Un sujet d'économie, enquête sur la France, le nouveau pays de l'optimisme, et un entretien politique avec Bruno Le Maire. Autant vous dire que je n'avais pas franchement envie de feuilleter davantage le Point ce matin. C'est pourquoi nous allons plutôt nous concentrer sur l'Obs, qui paraissait en kiosque hier aussi. Alors s'il y a un an, on trouvait encore des unes présentant Emmanuel Macron comme le grand sauveur de la France au visage d'ange, ce n'est plus le cas aujourd'hui, après l'avoir porté au nu l'hebdomadaire propose, pour une fois, un visage présidentiel entravé de barbelés et une police rouge sang. En gros titre, migrants, bienvenue au pays des droits de l'homme. À l'intérieur, un dossier de 8 pages consacré à cette hypocrisie française, alors qui certes n'est pas neuve, c'est bien de se réveiller, l'Obs. En 2017, 40 000 réfugiés ayant fait une demande d'asile peuvent être expulsés vers un autre pays d'Europe, c'est ce qu'on appelle les Dublinés. Et on trouvera des contributions de Jean-Marie Le Clézio et Patrick Boucheron notamment. On pointe le double discours de Macron, qui présente ses vœux aux réfugiés d'un côté tout en signant de quoi les expulser de l'autre. Pour rappel, il y a actuellement en France un réfugié pour 1340 habitants seulement d'après Eurostat. En Allemagne, il y en a un pour 141.
Et pour la fin de ta revue de presse, tu as pensé à quelqu'un en particulier.
Oui, Rémi, je dédie cette dernière partie de ma revue de presse à Maëlys, notre généalogiste devant l'éternel à Transistor. Le numéro de janvier du Monde diplomatique attire notre attention sur une manifestation inattendue du capitalisme. Le commerce de données généalogiques, parce que le capitalisme, ça s'infiltre partout. C'est à retrouver en page 16 dans l'article intitulé « Le négoce des ancêtres ». On y découvre que les leaders mondiaux des archives généalogiques sont, d'une part, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, enfin les Mormons quoi, qui propose la consultation de leur base de données gratuitement, et une poignée d'entreprises qui monnaient bien sûr leurs services, en plus de divers autres services comme par exemple des tests ADN. En fait, on se retrouve dans une situation d'oligopole dans lequel tout le travail de collecte effectué patiemment par des archivistes et des amateurs ou amatrices pendant des décennies, eh bien tout ce travail gratuit est actuellement mis en marché au profit de quelques grands groupes et c'est fort lucratif. Une de ces entreprises, 23andMe, a d'ailleurs revendu les données personnelles de ses clients à 10aine de laboratoires pharmaceutiques il y a peu. Bref, on est face à un capitalisme patrimonial qui interroge. La ressource archivistique, elle est limitée, elle n'est pas défendue comme patrimoine commun de l'humanité actuellement. Il est peut-être temps de réfléchir aux moyens de protéger cette ressource et de lutter contre les situations de monopole. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette revue de presse.
Merci beaucoup à toi Marie, comme quoi parfois l'historienne se réveille encore sous la géographe, l'avoue ça.
Oui, ça surgit parfois.
Ça surgit. Eh bien, on va terminer avec l'actualité, si tant est qu'on puisse parler d'actualité avec le peu qui reste. Et pendant que nos amis de la culture se mettent en place, c'est parti pour les pieds dans le tapis. Thank you. On s'arrête ce soir sur une histoire de fesses, parce qu'il faut rappeler combien le cul est important, combien d'agrégatifs languides et de fonctionnaires grisonnants se retrouveraient tout désœuvrés faute d'un cul pour s'y asseoir 10 heures par jour. Je trouve qu'on se le dit pas assez. Une histoire de fesses donc, mais pas une histoire drôle, car n'oublions jamais que la chair est triste, et pas non plus une histoire de fesses assises, parce que je vais pas vous raconter la grecque donc. C'est d'un postérieur toulousain de 19 ans qu'il s'agit, et dont le propriétaire, qui a d'ailleurs 19 ans lui aussi, jouissait tranquillement de sa liberté d'importuner quand soudain, paf, 3 mois depuis en ferme. Bon, précisons que c'est un hélicoptère de la gendarmerie que le jeune homme importunait depuis son jardin, fidèle au célèbre esprit de séduction à la française qui perdure aujourd'hui encore dans les formes les plus étonnantes. Et quand je dis « forme étonnante », je ne pense pas seulement à Catherine Deneuve après sa chirurgie esthétique. Bref, voyant passer la police dans les airs, l'individu dégaine ses rotondités et les présente au ciel comme pour être sur la photo. Manque de bol, il sera sur la photo. La faute au « super zoom de l'hélico », rapporte la Dépêche du Midi, qui le prend en photo sous toutes les coutures, je cite, à commencer donc par la plus béante. L'histoire ne dit pas ce qu'il advint de notre postérieur extraverti en prison et s'arrête ici, mais soudain surgit un doute dans la conscience brumeuse du citoyen moderne, qui importunait qui déjà ? Car s'il est acquis qu'il faut être au mieux un peu crétin pour montrer ses coutures aux gendarmes, il est tout de même inquiétant que ces derniers puissent les voir avec une telle acuité, et ils lisent votre identité mieux que sur un passeport, tel des Madame Irma modernes penchées sur les lignes de nos séants. Songez, chers auditeurs, à tout ce que vous avez déjà fait à la portée du super zoom d'un hélicoptère. Hein ? Bon, vous ferez moins les malins. En guise de conclusion, on se consolera néanmoins de ce que cette fois-ci, notre histoire de gendarme jouant à l'hélico en présence d'un postérieur ne se solde pas par une déchirure de 10 cm.
Journal radiophonique amplifié de Transistor, en direct avec vous jusqu'à 21h. Attention à vos oreilles.
Et oui, attention à vos oreilles, car ce sont Sarah et Léa qui débarquent dans le studio. Et pendant que Léa est en train de démonter son micro, je continue à parler pour meubler un petit peu. C'est bon, ça y est, vous êtes en place. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir, bonsoir Rémi.
Et c'est parti pour le Journal de la Culture.
Les paupières, les rabelles, les perlieux, les maupassants, les renoirs et les rembrandts qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas. La culture est une valeur.
Chers auditeurs, chères auditrices, nous venions d'écouter une histoire qui sentait fortement l'hélicobite, et il est temps, hélas, de commencer le Journal de la Culture.
Hélas, Sarah, bah, t'es pas contente d'être là avec moi ?
Bah, Léa, nous devons parler de l'actualité culturelle. Et en ce moment, la France est en deuil pour notre chère France. Mais oui, mais rassurez-vous, notre pays n'est pas schizophrène. Enfin, on se demande parfois. Mais après l'affreux Jojo, c'est une nouvelle étoile qui file vers l'au-delà. Notre vallée n'est plus que l'art, mais là, c'est quand la musique périt.
Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé, ça ?
Eh bien, le cancer, on peut dire qu'elle l'a, elle l'a. Notre poupée s'est procuré des poumons défectueux le jour de sa naissance. Il y a des gens qui sont mal fichus quand même. Et ils se sont infectés. Bref, tout en déchiré l'âme. Et le sternum. Petit tour aux urgences et notre poupée de cire finit à la morgue, c'est le cas de le dire.
Bon alors maintenant, c'est plus un visage de cire que de son.
Tout à fait. Enfin, sauf celui d'une dernière éructation, car toute jolie qu'on soit, où était au temps des bergers, on n'échappe guère à ces disgracieux ultima verba.
Oula, au temps des bergers, mais qu'est-ce que tu racontes, Sarah ? C'est tes habituels delirium tremens ?
Non, mais non, mais non. Nonobstant la bière dont je raffole particulièrement, je parlais du petit Michel, Michel Berger. Non content d'être un producteur d'histoires d'amour, il était aussi le producteur de France Gall, à ce qu'il me semble. De quoi écrire une déclaration d'amour ? Et il a contribué à la faire revenir sur la grande scène.
La scène d'où elle est maintenant partie, avec un peu plus que 12 disciples, je crois.
Oui, ah ben tu penses à la dernière scène. Mais oui, c'est l'avantage de mourir du poumon et pas d'une croix. Son businessman ne sera pas dans le blues, cela dit, puisque la Philharmonie et YouTube continuent à diffuser les jolis sons de France Gall, ces airs-là qu'on aime bien.
Bon, on part à Paris maintenant, Sarah. Je te vois frétiller. Est-ce que tu n'aurais pas envie de nous parler d'une expo ?
Eh si. En parlant de France Gall, j'ai pensé à Dao. Alors, effectivement, il y a beaucoup de sonorités en commun. Non, je plaisante. Dao, il l'aime pop, et ça tombe bien, moi aussi. En ce moment, et jusqu'au 29 avril, vous pourrez écouter les morceaux préférés de l'artiste Touche à tout, parmi lesquels il y a quelques France Gall. Alors, laissez tomber les larmes et venez tester le jukebox ou le merveilleux Dao Lab.
Et ne vous fiez pas à l'affiche, il s'agit surtout d'une expo en musique et en clip. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte, ces laboratoires à musique ?
Bah, en fait, ce sont des laboratoires avec énormément de morceaux de musique. Je crois qu'il y en a plus de 200 quand même. Et ça part de tout et de n'importe quoi, pardon. On peut écouter le Marquis de Sade, qui est un groupe assez sympathique, comme vous vous en doutez. On aime bien ça par ici. Mais on peut aussi écouter les douces journées d'une demoiselle où l'on apprend différentes expressions pour savoir comment baiser, par exemple. C'est très rigolo. Et après, il y a aussi, bien sûr, les musiques très, très, très bobos de Jacquenot, comme Rectangle. Bon, c'est un peu répétitif, mais c'est rigolo. Avec des rayures, ça passe très bien. Et pour les étourdis, les étourneaux et ceux qui ont envie de réécouter tout ça, eh bien il existe une playlist exprès sur Spotify. Alors saisissez tout de suite vos oreillettes ou le code de votre carte bleue si vous n'avez pas Spotify Premium, car c'est mieux, il n'y a pas de pub.
Le bureau de Transistor dénie toute responsabilité dans les messages publicitaires diffusés pendant ces programmes.
En parlant de pub, Sarah, tu me parlais d'un hommage à Barbara ?
Oui, ah bah oui, parce qu'il faut aussi faire de la pub pour Barbara qui est morte et qui ne risque pas de gagner beaucoup d'argent avec cette publicité. C'est dommage. Oui, non, mais c'est aussi à la Philharmonie de Paris, il y a une exposition en hommage à Barbara, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, si ce n'est absolument, à moins que vous ne soyez martien ou particulièrement ignare. C'est cette grande dame en noir, la longue silhouette, à la voix sublimissime, j'adore ce mot, et au piano savoureux. Oui, j'ai été xylophage dans une autre vie, et c'est pourquoi j'ai parfois la langue de bois. Eh bien, elle est là. Elle vous attend, la grande dame, et elle vous montre d'autres aspects que vous ne connaissez peut-être pas. Saviez-vous, par exemple, qu'elle s'appelait Monique Serre et qu'elle a bien galéré dans les instants de jeunesse, par exemple. Elle a été arrêtée dans un train un moment. C'était très triste, d'ailleurs. Enfin bon, bref, vous verrez tout ça à l'exposition. Je vous donne un peu de mystère. L'histoire de train, en vrai, c'est pas très très important. Et Monique Serre, alias Barbara, sera là jusqu'au 28 janvier à Paris. Évidemment, pas en chair et en os, mais tout en musique et en photo. Et je rajoute un post-scriptum, les personnes qui s'appellent Barbara ont droit à une entrée gratuite. J'ai vu ça tout à l'heure sur le site. C'est rigolo.
Oui, bon, mais Sarah, les vacances, c'est fini, là. Alors, on rentre à Lyon, maintenant. Vous arrivez à Pardieu, et vos yeux hagards se posent sur cette jolie affiche, le « Mois de la danse aux subsistances ». Alors, on hésite, le « Mois M-O-I », est-ce qu'il manque pas quelque chose ? Et en fait non, parce que c'est vraiment le mois qui est au cœur de cette édition du Mois de la danse. Elle propose une réflexion autour de la construction des identités chorégraphiques. Je ne vais pas faire le topo à la place de ceux qui l'ont pensé et je vous laisse en compagnie de Cathy Bouvard, la directrice des Subsistances.
C'est la troisième édition du Mois de la danse que nous faisons aux Subsistances. C'est un festival qu'on a conçu en ayant l'envie de permettre aux spectateurs de mettre en relation les trajectoires personnelles des artistes, des chorégraphes, avec leur œuvre. C'est-à-dire que dans chaque œuvre qui se noue, il y a quand même des bouts d'histoire, des chorégraphes. Et finalement, l'envie qu'on a, c'est de faire en sorte que le spectateur puisse s'interroger sur qui fait la danse, qu'est-ce que ça raconte de ces gens qui font la danse, et qu'est-ce que du coup, si ça raconte quelque chose sur eux, ça raconte sur nous, en fait, sur nous-mêmes et sur nos propres interrogations dans nos propres vies. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc, c'est un festival qui est conçu en plusieurs temps. Il y a des temps où on montre des œuvres, voilà, durant 3 semaines. Il y a des temps où on interroge des grands chorégraphes, ce qu'on appelle la séquence des grands témoins. Et cette année, c'est Christian Rizzo. Et il y a des séquences où on danse et où tous ceux qui ont envie de transmettre de la danse viennent transmettre de la danse. Et ce sont les cours de danse minute. Donc, c'est vraiment voir de la danse, écouter parler de danse, danser. Voilà, c'est vraiment ces trois tons-là.
Le Mois de la danse commence ce soir et au programme jusqu'à dimanche, ce sont Aris Gekas et Cécile Laloy.
La première invitation qui a lieu donc cette semaine, c'est à 2 jeunes chorégraphes qui sont Aris Gekas et Cécile Laloy, qui sont extrêmement différents, de nature extrêmement différente et qui nous racontent des choses sur eux-mêmes qui sont extrêmement différentes. Aris Gekas, c'est un jeune artiste, on peut dire un artiste en tous les cas, d'origine grecque, qui a quitté la Grèce à 13 ans. En ayant envie de danser. Vraiment, ce qu'il voulait, c'était danser, danser, danser. Et donc, il est venu directement en France, il s'est formé en France. Et puis, il a travaillé avec les plus grandes compagnies de danse. Et il a fini, il n'y a pas longtemps encore, au Ballet de l'Opéra de Lyon. Et c'est là où, tout d'un coup, il s'est dit, mais il y a un moment où, moi, j'ai envie de prendre la parole. J'ai envie de prendre la parole avec mon corps, j'ai envie de créer, de faire de la chorégraphie. Et cette pièce qui s'appelle Mille, qui est un solo qu'il danse, est finalement une sorte de manière de nous montrer comment on se débarrasse des influences, comment on essaye de prendre corps pour soi-même et pas à travers la vision des autres chorégraphes, comment on passe du statut d'auteur d'interprète à celui d'auteur. Finalement, c'est cette chose-là. Et c'est une pièce extrêmement virtuose, extrêmement précise, parce c'est un grand danseur de ballet. Donc, du coup, il y a une sorte de précision du corps, d'énergie du corps qui est extrêmement ramassée, rassemblée, forte. Et donc voilà, cette pièce est vraiment une sorte de traversée du corps, d'être le corps de l'autre ou les corps de l'autre jusqu'à son propre corps. Voilà, c'est un peu ça. Et la pièce de Cécile, la loi est très différente. Cécile, c'est quelqu'un qui fait de la danse, certes, mais qui est presque plus proche de la performance. Cécile, c'est une punk. Elle a quelque chose comme ça sur une sorte de façon un peu dévastatrice de faire prendre corps à ses danseurs. Et ce spectacle s'appelle Duo. Il a été fait, c'est autour de l'idée de la passion. Et c'est un danseur qui doit faire à peu près 2 mètres avec une danseuse qui fait 1,50 m et qui essaye de nous raconter ce que peut être la tentative de l'amour dans la vie, finalement. C'est-à-dire toute notre trajectoire pour essayer de s'ajuster, de se désajuster, de faire corps ensemble, comment on y arrive, comment on n'y arrive pas, comment ça peut être dévastateur. Je vous raconte pas la fin de la pièce. Voilà, il y avait une chanson qui disait que toutes les histoires d'amour finissent mal, en général. Donc il y a quand même cette question-là de comment on fait ensemble dans la différence, finalement. C'est cette chose-là qu'elle nous raconte au travers de sa pièce. Et ce sont deux pièces qui sont totalement dissemblables, qui sont sur des registres différents, mais qui chacune nous raconte des choses extrêmement intimes sur les chorégraphes.
Alors rendez-vous aux Subsistances pour aller danser jusqu'en février. Et ce final mirifique, Sarah.
Ah oui, ce final mirifique. Mais vous savez, il est de ces jours comme ça. Vous êtes chez vous, vous n'avez envie de rien faire. Une note de synthèse en économie n'a rien à y faire. Mais que faites-vous en économie d'abord? Vous ne savez même pas compter. Bref, là de ruminer de si moroses pensées, vous n'avez pas envie de devenir vache ou chèvre quand même, vous décidez de sortir. Il fait froid. Vous le regretterez par la suite, je vous l'assure. Du moins, votre gorge vous le fera amèrement sentir. Mais pas vos mirettes. Eh oui, allez donc rue Cortot, qu'il soit tard ou qu'il soit tôt, c'est l'une des plus charmantes de Paris. Oh pardon, vous n'êtes pas à Paris, vous êtes à Lyon, j'avais oublié. Alors laissez-moi vous dire ce qu'il y a, rue Cortot, 18e, tout en haut de la butte Montmartre, il faut marcher. Il y a d'abord des pavés, c'est joli les pavés. Il y a même des gens pour s'en jeter dessus, comme on aime à se jeter des fleurs entre amis. Et puis il y a des vignes, elles surplombent Paris, moi, ça ne me dit rien qui vaille, du vin au parfum de diesel. Mais si ça ne l'est pas pour les papilles, ça l'est pour les pupilles. C'est encore plus joli que les pavés. Et puis, c'est le fruit du charmant Bacchus. Et Bacchus, on l'adore au mois de janvier. Oh, mais ne vous impatientez pas, je brode, je fais de la dentelle. Rémi trouve ça sérieux et je ne viens pas au principal. Rue Cortot, évidemment, c'est si mignon que les artistes l'aiment et qu'on a envie d'y faire un musée. Mais non, pas toute la rue. Remarquez, le musée Renoir, car c'est lui, fait du coin tout un musée à ciel ouvert. On y comprend les vignes. Tout à coup, le bistrot du Lapin Agile où l'on testait en verre notre agilité d'esprit au temps des fumistes. Et puis l'esprit de Montmartre, quoi. Rien que ça. C'est l'expo permanente du musée Renoir. Découvrez-y l'ambiance des bistrots, les charmes trop soupçonneux de la chartreuse, l'humour zutiste du chat noir et les jolis calembours. Vidéo de French Cancan prise par Renoir, la goulue et bouche d'égout vous tendront la jambe, tandis que les clowns négrillons vous feront rire. Hashtag blanc manger coco, merveilleux jeu de société raciste, homophobe, misogyne et tout ce que vous voudrez. Puis l'expo temporaire. Vous traversez un petit jardin, tout ça, vous plongez dans les décors de cinéma. Mais oui, Renoir, le cinéaste, vous voyez le lien? C'est surtout Montmartre au cinéma que l'on voit. Du coup, rebelote les cabarets, vous allez finir complètement ivre sur la voie publique, Toulouse-Lautrec, les travestis. Oui, il y a des paillettes et aussi des claquettes. Saviez-vous par exemple que Gene Kelly ne danse pas à Paris dans un Américain à Paris, mais que tout est du carton-pâte hollywoodien ? On a l'habitude qu'ils nous mentent, ces Américains. Et puis, aviez-vous déjà vu Léo avec de bonnes joues bien dodues d'adorables adolescents, amateurs de la nouvelle vague ? Au musée Renoir, on le voit courir sur les toits pour une vision ha 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 idéalisée de Clichy et compagnie. Outre le cinéma, trempez-vous les mirettes, je déteste ce mot mais il est très rigolo, d'émotion en voyant l'atelier, non, en le pénétrant plutôt, de Suzanne, la peintre et mère de Maurice Utrillo, peintre aussi et complètement fou, dont on voit d'ailleurs la chambre avec du grillage. C'est très chouette tout ça, et sur ces bonnes paroles, nous vous quittons pour le Journal de la Culture.
Il giornale radiofonico de l'amplification.
Sur Transistor.
Merci beaucoup à toutes les deux pour ce journal de la culture. Et alors, la culture n'est jamais très loin du culturisme. Et rebonsoir, oui. François René.
Rebonsoir, Rémi.
Voilà, alors peut-être que ce coup-ci, justement, tu, dans la digne suite de ce que nous disaient Maë et Marie, tu vas passer à la boxe.
Oui, peut-être.
Peut-être, écoute, peut-être pas. Écoute, on démarre avec un jingle.
Un entraîneur,
ça doit être entraînant.
Oui, mais là, ça pique.
Respectez !
Pas peur de
fond,
pas
peur
de
fond.
Alors
après,
je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Fou, vous êtes un salaud.
L'année dernière, on n'avait pas d'opium, hein, je te rappelle.
Quel scandale, cet arbitrage, c'est invraisemblable.
Et non, je lis mes notes. En fait, il s'agissait de tennis.
Je me demandais pourquoi tu me parlais de boxe.
Saison 2018.
Je suis tout prêt à en parler la prochaine fois.
Non, mais c'est... les auditeurs ne peuvent pas savoir que tu m'as fait des gestes de boxeur plutôt
dans
l'émission.
Ah oui, c'est vrai.
La saison 2018 de tennis, donc, d'après les papiers que tu me donnes, a commencé. Et déjà, le premier des quatre grands chelems de l'année, l'Open d'Australie, se profile à l'horizon.
Eh oui, alors petite revue d'effectifs du tableau masculin dans un style épique, digne, un peu carton-pâte, digne des journaux sportifs. À tout seigneur, tout honneur, Roger Federer, le tenant du titre, sera bien présent à Melbourne. 4 victoires sur 4 matchs disputés en 2018, le Suisse a montré qu'il était en forme, prenant notamment le meilleur sur le jeune prodige du tennis mondial, Alexander Zverev, déjà 4e mondial, à seulement 20 ans. Il est à ce titre le favori de cette édition et candidat à un 20e titre du Grand Chelem. À 36 ans, il pourrait devenir le plus vieux numéro 1 mondial de l'histoire du tennis, dépassant ainsi largement le record de l'Américain André Agassi. Mais pour l'instant, Federer n'est que, entre guillemets, numéro 2 mondial, et le leader du classement n'est autre que son vieux rival, Rafael Nadal. À 31 ans, vainqueur comme Federer de deux grands chelems l'année dernière. Revenant d'une blessure récurrente au genou, le Mallorquin s'est montré moins convaincant dans ses premiers matchs de la saison, perdant notamment un match d'exhibition contre le Français Richard Gasquet, pourtant l'une de ses victimes favorites. Il n'empêche que son physique peu commun pourrait lui permettre de monter en puissance au fil des tours. Un autre cador effectue son grand retour, mais après une absence de plus de 6 mois, Novak Djokovic, mis au repos forcé par une blessure au coude. Malgré une victoire facile lors d'un match exhibition contre Dominic Thiem, l'Autrichien, difficile de dire où en est véritablement le Serbe. Ses 6 titres à l'Open d'Australie parlent cependant pour lui. Derrière, c'est un peu plus dégarni à cause des blessures qui font s'interroger sur la pérennité des matchs en 5-7 et plus de 4 heures et d'un calendrier à rallonge. Murray et Nishikori out, Wawrinka indécis, Raonic encore fragile, etc. Enfin, la jeune garde, composée notamment de Zverev mais aussi de Kyrgios, aura également sa carte à jouer. Côté féminin, l'absence de Serena Williams, vainqueur quand même 7 fois en Australie, encore insuffisamment prête après la naissance de sa fille, qui répond au doux nom d'Alexis Olympia, oui, c'est une fille, rend le tableau plus ouvert. La tenante du titre abandonne sa couronne aux appétits de l'actuel numéro 1 mondial, la Roumaine Simona Halep, de la vainqueur d'il y a 2 ans Angélique Kerber, ou encore de la puissante Garbiñe Muguruza, qui menace cependant de déclarer forfait. Côté français, la fin d'année en trombe de Caroline Garcia laisse espérer un beau parcours, d'autant que son tableau est assez clément. La dernière française à s'être imposée à Melbourne était Amélie Mauresmo en 2006 déjà.
Ouh là là, nous étions encore de petits enfants gambadant dans les prairies à cette époque-là.
Eh oui, c'est ça. Enfin, moi, j'étais déjà devant ma télé, mais toi, tu...
Ça ne nous rajeunit pas tout ça, comme on dit. Et dans ce grand moment de vieillesse, je pense qu'il est temps de nous tourner vers les sciences. C'est parti, donc.
air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Et on disrupte même les scripts. Rebonsoir Sarah.
Bonsoir Hihi. Pardon Rémi, de quoi est-ce que tu vas nous parler pour le premier JRA de l'année ?
Eh bien ce soir on va parler de ce que c'est qu'un Memory Store. En ce début d'année 2018, on ne trouve pas grand-chose d'intéressant émanant de la communauté scientifique, parce qu'à part un poisson qui ressemble à un poulet sans tête découvert dans les abysses et un énième article sur comment les drones vont nous envahir ou un top 5 des animaux zombies, il n'y a rien. Rien, sauf un petit article sorti tout frais de la direction d'Hewlett-Packard indiquant que le premier ordinateur à Memory Store est prévu pour cette année. Et là, ça devient intéressant.
Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce Memory Store ?
Ah mais oui, bien sûr, parce que c'est la première fois que je lis le script et que ça intéresse beaucoup l'informaticien que je suis. Alors il faut savoir, écrit Pierre, qu'en électricité, il existe quatre grandeurs primordiales. La tension, le courant, la charge et le flux magnétique. Ces quatre grandeurs sont toutes reliées entre elles par des relations mathématiques, mais également par des composants électriques qui obéissent à une relation linéaire entre certaines grandeurs. Ainsi, la résistance relie tension et intensité, le condensateur relie tension et charge électrique, et enfin, la bobine relie courant et flux magnétique, par exemple dans les petits micros dans lesquels je parle. Sauf que pour que ça soit beau et que les physiciens soient contents, il en manque un, le composant électrique qui relierait charge électrique et flux magnétique. C'est en 1971 que Léon Choua, professeur à l'université de Berkeley aux États-Unis, pose l'existence d'un tel composant électrique qui, selon lui, servirait de mémoire et le baptise Memory Store.
Mais concrètement, c'est quoi un Memory Store ?
Alors concrètement, c'est un composant électrique donc qui se comporte comme une résistance électrique, sauf que sa valeur dépend du courant qu'il traverse. Et encore mieux, il garderait en mémoire l'état dans lequel il est avant un chargement. Aujourd'hui, l'informatique est basée sur une suite de 1 et de 0 via le langage binaire. Eh bien, avec le Memory Store, on peut désormais véhiculer le même message, mais avec des 0,21 et des 0,73. Mais aussi avec des 0,09 et des 0,56, et tout ça avec le même composant. On voit assez vite que ce Memory Store présente de nombreux avantages en termes de mémoire de stockage, s'il peut prendre de nombreuses valeurs de résistance.
Très bien, mais tout ça, ça reste de la théorie. Alors a-t-on déjà créé un Memory Store ?
Eh bien oui, le premier Memory Store a été produit par le laboratoire d'HP en 2008. Il est constitué d'un film très fin de dioxyde de titane TiO2 dopé, rien que ça, ce qui veut dire qu'une partie présente des lacunes électroniques et est déficitaire en électrons, alors que l'autre est normale. Ce film de titane est enserré entre deux plaques de platine qui assurent la conduction du courant électrique. Le mode de fonctionnement du Memory Store est assez simple. La zone où le TiO2 est lacunaire est de faible résistance électrique, tandis que la zone où le TiO2 est dans son état normal présente une résistance électrique 100 fois plus grande. De plus, la démarcation entre ces deux zones varie linéairement avec le courant électrique, donc si on fait varier le courant, on fait varier la résistance. Dernier avantage de ce composant, il mesure 15 nanomètres de long et 5 nanomètres d'épaisseur, une petite taille qui en fait un très bon candidat donc pour élaborer des mémoires massives.
Est-ce que le Memory Store est vraiment un candidat sérieux à l'architecture actuelle des ordinateurs ?
Eh bien, la partition des ordinateurs entre le processeur qui effectue les calculs et la mémoire qui stocke les informations est un vieux concept qui remonte à 70 ans. Le Memory Store permettrait de réunir ces deux tâches en un seul composant et donc par conséquent d'utiliser la place libérée pour augmenter la capacité de stockage des ordinateurs. HP estime que leur nouvel ordinateur portable à Memory Store posséderait une mémoire de 100 Teraoctets, soit près de 100 fois la capacité actuelle de la majorité des ordinateurs portables. Il reste bien sûr quelques petits détails à régler, comme la toxicité des composants ou les risques liés à leur utilisation, mais l'ordinateur à Memory Store se présente comme l'évolution la plus plausible des ordinateurs actuels dans les prochaines années, en attendant bien sûr le fameux ordinateur quantique. Voilà, vous savez tout sur le Memory Store, et puis évidemment on remercie Pierre pour cet édito scientifique qu'il n'a pas pu venir lire à notre antenne ce soir, mais que vous retrouverez très prochainement sur Transistor, y compris dans son émission d'actualité scientifique, parce que la science n'attend pas. Eh bien, Transistor n'attend pas non plus. Il nous reste 10 minutes pour cet amplifié qui ne se termine pas par onde courte, car je suis en agrég et c'est les concours blancs. Mais malgré tout, je finis tout de même en vous donnant le podcast de la semaine pour écouter, bah, par exemple, pendant les 5 minutes d'amplifié que vous perdrez ce soir. Et en plus, il y a de quoi écouter, ça dure une heure. Il s'agit d'un numéro de la Méga Combi, la meilleure émission de la bande FM. Numéro paru en fin novembre, qui est en fait une rediffusion d'il y a 3 ans, sur le thème de l'école et du logement, des thèmes qu'on ne s'imagine pas forcément voir se rejoindre comme ça, mais qui chaque hiver et en particulier à Lyon se retrouvent dans une situation qui chaque année empire, celle d'enfants qui sont scolarisés mais n'ont pas de logement. Et on se retrouve donc avec une heure de reportage sur ces deux thèmes conjoints, avec entre autres la deuxième demi-heure que je vous encourage vraiment à aller écouter. Deuxième demi-heure où s'enchaînent deux reportages. Donc le premier va à la rencontre d'une fille qui a vécu dehors pendant un certain temps quand elle était à l'école, tandis que le second se penche sur le cas du suicide d'une dame âgée qui avait été expulsée de son appartement par sa propriétaire. Voilà, ça date d'il y a 3 ans, mais c'est toujours complètement d'actualité. Malheureusement, la situation n'a fait qu'empirer, puisque celui qui était alors maire de Lyon est devenu Minister of Police, comme il le dit lui-même. Et avant de se quitter, on écoute un petit extrait moins réjouissant que mes blagounettes de ce reportage.
Dans la classe, j'avais raconté mes histoires pour mes camarades. Et ils étaient choqués parce qu'ils ont... J'espère qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre des histoires comme ça. La moitié, ils étaient tristes, la moitié choqués. Ils ne croyaient pas qu'il y avait ça, que je dormais dehors, qu'il y avait des enfants qui dormaient dehors pour venir à l'école, de repartir dehors, de dormir dehors. Bah, ils n'ont pas l'habitude des choses comme ça. C'est pour ça qu'ils étaient choqués. Ça me rend un peu triste quand je repense... quand j'étais dormi dehors avec mon père, ça me rendait un peu triste.
Voilà, c'est donc à réécouter sur l'audio blog de la Méga Combi, et puis vous pourrez trouver le lien sur la page de l'émission sur le site de Transistor. Et puis avant de terminer, parce qu'après tout on a encore 8 minutes à meubler, et même si on n'arrivera pas à pousser jusqu'au bout, je sens, il est temps de faire place à un événement majeur de la vie de cette association et d'écouter immédiatement l'un des meilleurs moments de ce journal radiophonique amplifié qui fête aujourd'hui son 30e numéro.
Emmanuel Macron a choisi cette semaine Christopher Castaner, actuel porte-parole du gouvernement. Christopher Castaner. Christopher Castaner. Christopher Castaner.
Voilà, on s'amuse bien dans le studio, vous aurez compris, c'est l'anniversaire de Maë, notre secrétaire. Il fallait bien s'occuper pour finir l'émission en citant les grandes heures de gloire.
Merci Rémi.
Oh, mais tout le plaisir est pour moi, tu n'imagines pas, et puis pour nos écouteurs, auditeurs qui nous écoutent par milliers
avec
sur le site de Transistor, Christopher qui évidemment est pendu à nos oreilles toutes les semaines pour savoir la vraie actu, la seule, celle qui est sur le journal radiophonique amplifié. Voilà, il va être l'heure de se quitter, je pense qu'on n'a plus vraiment de conneries à vous raconter. Hein.
Si. Bon anniversaire au journal radiophonique amplifié aussi.
Oui, parce que 30e numéro pour les 30 ans de l'ENS, c'est quand même quelque chose de très très fort. On n'a pas de logo moche à vous montrer parce que c'est la radio. Mais soyez bien persuadés.
On ne vous spammera pas par mail tous les jours.
Parce qu'on n'a pas tous les jours 30 numéros de l'amplifié. Mesdames et messieurs, jingle. Et c'était donc le 30e numéro du journal radiophonique amplifié sur Transistor avec aujourd'hui Maë Burla, donc François-René Julliard, Marie Lécuyer, Léa Jusso et Sarah Andria, avec l'aide précieuse de Pierre de Dieu pour l'édito scientifique, pardon, et puis bien sûr de l'irremplaçable Félix Barancy à la régie, le soutien également de NS Media pour le studio tout simplement que nous utilisons. On vous dit à très bientôt pour toujours plus d'actu et de radio sur Transistor. Vous nous retrouverez sur transistor.fr avec toutes les autres magnifiques émissions de cette station. À très bientôt et bonne écoute à tous.